Cette semaine, de lundi à vendredi, nous réécoutons la rencontre en 2004 entre Alain Weinstein et Jacques Lassalle qui vient de nous quitter.
Toute cette semaine, Jacques Lassalle, cette série d'Avoix nues, va porter sur le passé proche, le présent et, disons, l'avenir immédiat. Un bref rappel pourtant, parce que certains de nos auditeurs ont peut-être manqué des épisodes. Vous êtes né à la veille de la guerre à Clermont-Ferrand. Vous avez été formé au Conservatoire de Paris, car vous songiez à devenir acteur. Et en fait, ça ne s'est pas passé comme ça.
Un peu, mais très peu. Très peu de temps. Cela dit, l'acteur reste probablement premier en moi parce que le rapport que j'entretiens avec les acteurs aujourd'hui passe tout de même par cette espèce de connivence profonde, d'intuition que j'ai de ce qui les traverse, de ce qui les trouble, de ce qui peut éventuellement leur manquer, de ce qu'ils appellent. Autrement dit, je ne suis pas moins acteur en ne l'étant plus, ou peut-être je le suis davantage d'une certaine façon, un acteur qui n'est plus que médiateur, qui n'est plus que traversé. Mais, et puis, peut-être de temps en temps, la question se repose de faire une petite prestation à côté, comme ça. Mais si j'avais abandonné après mes années de conservatoire, c'était donc au début des années 60, tout début des années 60, en pleine guerre d'Algérie, c'est parce que cet enseignement reçu, et dont paradoxalement j'ai reconnu et j'ai emprunté beaucoup des voies et des préalables depuis, mais à l'époque me paraissait un enseignement d'impasse totale, enfin, c'est-à-dire que il se réclamait de quelques présupposés, qui étaient une espèce d'éternité du texte, de déni de la mise en scène, comme configuration d'espace, comme gestion du temps, comme point de vue sur l'œuvre, et aussi comme organisation des corps, échange des corps, relation à l'autre, qui n'était, dans le meilleur des cas, que la réplique. Celui à qui on s'adresse génériquement, mais pas du tout, est-ce dans sa singularité de personne et de... Et puis, les autres préalables, c'était l'emploi. On était acteur défini par une sorte de typologie qui était à la fois morphologique et caractérielle. Et le jeune prétendant au conservatoire que j'étais, hanté évidemment par le modèle Avignon, Gérard Philippe, Lorenzaccio, s'était entendu dire au bout de 3 minutes de Lorenzaccio, même pas, qu'il fallait lui abandonner ça immédiatement et que pour le lendemain, il me fallait travailler un des valets les plus épais de Molière, le Gros René. Cet épisode a marqué ma vie, enfin... Lorenzo dedans, Gros René dehors.
Ouais.
Et puis le modèle, l'emploi, on ne travaillait que les rôles appartenant à la famille. Et puis le modèle, on travaillait à l'image et sur les traces du grand acteur qui, à la Comédie Française, dans ce temps-là, est en droite ligne du créateur, des compagnons de Molière, assurait-on et le croyait-on jouer le rôle, voilà. C'était un conservatoire conséquent avec lui-même. Il ne se voulait que le vestibule de la Comédie Française, son vivier, et il pérennisait une tradition qui était celle de l'acteur français. Pas si éloigné d'ailleurs, le conservatoire de déclamation s'inscrivait dans le conservatoire de musique. La tradition était une pure tradition déclamatoire, une tradition de diction. On phrasait, on respirait, on gérait la langue française, et très particulièrement dans ses formes prosodiques, et très particulièrement dans l'alexandrin classique. tout ça revient singulièrement, revient d'actualité, puisque de tout ça aussi, on a tendance à faire le sacrifice absolu, ce qui serait trop. Mais quand il n'y avait que ça, et qu'au même moment, le monde, peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, en pleine guerre froide, et au moment où les guerres coloniales, tout de suite après l'Indochine, la terrible guerre d'Algérie, dont personne ne voulait qu'elle portât ce nom. Et puis au moment même où, par exemple, tout près du conservatoire, il y avait un cinéma le midi-minuit, qui passait les films de la Nouvelle Vague. C'était terrible de travailler Figaro dans une certaine tradition, assez étroite, il faut bien dire, et de courir, voire à bout de souffle. Enfin, je n'arrivais pas à vivre ensemble ces états pratiquement incompatibles. Enfin, je les vivais comme tels. Et comme je n'arrivais pas non plus à imaginer un moyen de passer d'une rive à l'autre, j'ai, en toute bonne foi, décidé, très peu de temps après ma sortie du conservatoire, il y avait aussi des raisons personnelles, des enfants, l'obligation de partir en banlieue, enfin, j'ai décidé d'en rester là avec ma jeune carrière d'acteur.
Voilà. Et donc vous avez provisoirement abandonné le théâtre pour l'enseignement, et pas l'enseignement du théâtre. Hein. Vous avez été prof de lettres, d'histoire.
Dans un premier temps, lettres et histoire, dans deux lycées de Vitry-sur-Seine, lycée Makarenko et le lycée Romain Rolland, avec beaucoup, beaucoup d'élèves. C'était dur. Tout en poursuivant, en ayant repris mes études, et ceci jusqu'en 69, date à laquelle l'université s'ouvrait, c'est, je crois, la réforme Edgar Faure qui faisait que l'université, comme le RTF, se diversifiait en plusieurs...
On disait éclater pour le RTF.
C'est ça. Et j'ai été invité par celui qui avait été mon maître à l'université, Bernard Dort, de faire partie de l'équipe pédagogique qui se mettait en place aux études théâtrales de Paris 3.
Donc, retour au théâtre.
Retour au théâtre aussi à Vitry sur le
vous a donné voilà. Quelques idées, sans doute, oui, hein, puisque c'est à Vitry, en 1967, que vous fondez le studio de théâtre.
C'est ça.
Première grande aventure. Ensuite, vous dirigez le TNS, le Théâtre National de Strasbourg, et son école pendant 8 ans, de 83 à 90, en gros.
Oui.
Puis la Comédie Française, pendant 3 ans, de 90 à 93. En même temps, et depuis lors, vous avez été professeur d'interprétation au conservatoire, en deux étapes, de 80 à 83 d'abord, de 94 à 2001. Ensuite, en 2001, vous avez pris votre retraite. Si bien qu'on peut dire que depuis une dizaine d'années maintenant, depuis votre éviction de la Comédie Française, depuis votre retraite du conservatoire, vous êtes indépendant. Vous avez rejoint ce que vous appelez le camp des mercenaires. Et on peut le constater, en France, à l'étranger, dans le secteur public, aussi bien que dans le privé, les spectacles s'accumulent. Rien que cette saison, il y a eu le Platonov à la Comédie Française, le Strindberg, la danse de mort à l'Athénée, et à Sceaux, un Duras que vous avez adapté d'un récit, en fait, qui se trouve dans la douleur.
Dans des six récits de la douleur.
J'ai peut-être oublié encore des spectacles.
Admirable récit. Et là, dans les jours qui viennent, je travaille à la reprise d'une adaptation d'Henry James, des Papiers d'Asperne, au Vieux Colombier. Mais c'est une reprise, c'est-à-dire que le spectacle avait déjà été joué il y a 2 ans et l'an dernier.
Une reprise, ça ne compte pas.
Oh si, bien sûr. Mais si, ça compte. Ça compte surtout lorsque, comme il m'est arrivé cette année aussi, d'avoir à remettre en route Don Juan à la Comédie Française pour une très longue tournée, et que il n'y avait plus, sur la distribution originale qui datait de 93, il n'y avait plus que deux acteurs, Andrzej Séverine, Don Juan, Eric Truff, Don Carlos, tous les autres, c'est-à-dire 11 autres acteurs, il a fallu travailler avec eux en très peu de temps pour que... C'est une aubaine magnifique de remettre en question, à la fois dans l'identique et dans la gestion du temps qui est passé dans sa propre vie, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de ceux avec qui on travaille. C'est magnifique l'occasion, surtout après tant d'années, de reconsidérer une mise en scène et le rapport qu'on entretient avec l'œuvre. Mais c'est un gros travail que j'ai connu aussi avec l'École des femmes, qui va d'ailleurs revenir cette année au Théâtre de l'Athénée.
Tout ça pour dire, Jacques Lassalle, que vous n'arrêtez pas et que d'ailleurs vous allez continuer dans cette voie la saison prochaine, ce que cette série d'avoués nus va montrer jusqu'à vendredi. Est-ce que ça signifie que vous ne savez pas dire non ?
Oh, je dis non, je dis non. Je le dis avec scrupule, avec culpabilité, mais je le dis quand même un certain nombre de fois. Mais c'est vrai que tout ça peut paraître comme l'expression d'un activisme excessif, d'une fuite en avant, ou ce qui serait bien pire, comme l'usage d'un certain savoir-faire, ce qui est
un faiseur de théâtre.
Comment ?
Un faiseur de théâtre.
Ce qui serait pour moi la pire des images possibles. En même temps, ça y ressemble. Ça y ressemble en France et ça y ressemble, comme on va avoir l'occasion de se le dire, à l'étranger. Ça procède de beaucoup de choses. Incontestablement, l'âge est là, bien sûr, d'une certaine façon, mais il y a dans cette façon de vivre et d'accepter une indépendance relative, puisque je suis chez les autres et je dépends de l'invitation que me font les autres à travailler. Mais il y a tout de même une sorte de sentiment de grande liberté qui fait que, après tout, j'ai le sentiment de n'avoir des comptes à rendre qu'à moi et qu'à ceux que j'invite à travailler avec moi. Et c'est vrai que dès ce moment-là, les désirs sont innombrables et qu'il est très difficile de leur résister. Dans l'étonnement de cette, comment dirais-je, de cette disponibilité-là, en rendant grâce d'ailleurs. À qui rend-on grâce dans ces cas-là ? Je ne sais pas. C'est un privilège énorme de faire ce qu'on aime, à peu près dans les conditions que l'on se souhaite, et dans une bonne volonté de la machine. C'est un grand privilège. Voilà, je traverse ça et en compensation d'un questionnement chaque jour un peu plus perplexe et certains jours presque douloureux sur, bien entendu, mais ça va de soi, le monde comme il va. Et la place que peut occuper le théâtre à l'intérieur de cette société inquiète, indécise, qui s'étourdit, qui essaie à la fois d'oublier d'où elle vient et de ne pas trop penser où elle va. Comment le théâtre peut-il essayer d'accompagner un peu, pas au sens terrible qu'il peut prendre en médecine, mais d'accompagner un petit peu l'individu et peut-être aussi un le citoyen encore, dans un effort d'élucidation du monde et dans un effort de partage, d'échange préservé, là, dans l'espace physique de la représentation, avec les autres. Voilà. Comment peut-il s'arracher un petit peu à cette instrumentalisation générale où les nécessités de la production, de la consommation, de l'économisme de la désinformation massive des médias font que, voilà, est-ce que le théâtre peut encore trouver sa place?
Oui, alors là, justement, on peut se poser la question aujourd'hui, qu'en est-il d'un engagement dans le théâtre, à l'exemple du vôtre, Jacques Lassalle, à l'heure où, manifestement, le marché, de plus en plus, dicte sa loi, un peu partout, et en faisant assez peu de cas de l'exception culturelle?
C'est une question très, très importante. En ce qui me concerne, je trouve que depuis quelques années, j'ai trois interlocuteurs qui m'ouvrent leurs portes et je leur en sais gré beaucoup. Depuis longtemps, René Gonzalez, qui après avoir dirigé un certain nombre d'établissements en France, dirige depuis le théâtre de Vidy, Lausanne. Et là, chaque année, il suffit que je lui dise, voilà, j'ai une envie sur ce texte, sur cette... Et il me dit, tu viens quand tu veux. Je reviens à la Comédie Française après 9 ans d'interruption. Et c'est un grand bonheur parce que c'est tout de même aujourd'hui dans la grande question de l'état du théâtre public, où en est la décentralisation. C'est un outil dont j'ai toujours pensé qu'il avait vocation à être locomotive, et pas seulement sur le plan de la tradition préservée, de la mémoire entretenue, mais d'un répertoire et de pratique, mais aussi comme lieu d'ouverture au monde, comme lieu d'ouverture à beaucoup d'autres pratiques que celles qui se font en France, et que lieu de partage entre le répertoire classique et la création et les écritures contemporaines. Et je crois que le français et la Comédie Française a tous les moyens, si elle le veut, et si on veille à ce qu'il en soit ainsi. Quand je dis « on », c'est l'État, c'est celui qu'il nomme à la tête de cette maison, et qui doit l'arracher à certains de ses démons, on les connaît bien. Mais dès lors qu'il en est ainsi, la Comédie Française, aujourd'hui, a tout naturellement, et on ne le sait peut-être pas assez, vocation à assurer cette tâche-là.
L'ouverture au monde, Jacques Lassalle, l'actualité récente de vos spectacles en témoigne complètement. On va le voir, c'est pas nouveau pour vous. Vous avez été spectateur du Théâtre des Nations longtemps, du Festival de Nancy aussi, et vous avez toujours suivi les programmations internationales des festivals d'Avignon, du Festival d'Automne, etc. Ce qui vous a amené à vous mettre à l'écoute de ce qui se disait ailleurs. Mais là, quand vous allez vous-même à l'étranger pour donner vos spectacles, vous devez faire rencontrer la diversité culturelle et linguistique qu'il représente à des publics qui sont situés en dehors de nos frontières, ce qui pose le problème de la transmission.
Oui. Il se trouve que très longtemps, j'ai été terriblement franco-français. Enfin, je suis sorti très peu des frontières. Je ne parlais pas vraiment d'autres langues. Il y avait la paresse d'une génération, l'espèce de fierté imbécile, comme ça, de parler la langue française, ça suffisait. Et puis, probablement, et tout autant, une indolence personnelle sur ce terrain-là. Bref, je n'ai commencé à voyager vraiment que tard. Et on m'a invité depuis une vingtaine d'années assez souvent à mettre en scène à l'étranger le théâtre français. C'est pas une mince question. On peut aller à l'étranger avec les spectacles qu'on a fait en France et qui sont accueillis, qui sont programmés. est reçu en tant que tel, enfin, expression en français d'une troupe française et dans une espèce d'échange de bons procédés et de respect des différences. Mais quand on va là-bas, quand on va ailleurs, inviter, d'abord, quelles sont les raisons de cette invitation? Je pense que quand on est invité par un théâtre en général institutionnel, en général théâtre national ou assimilé, on vous invite souvent pour une espèce de spécialiste du grand répertoire classique français. Le grand répertoire classique français à l'étranger, ça se réduit à très peu de choses, au fond. Depuis des années, j'essaie de proposer Marivaux, et on me dit, c'est trop particulier, c'est peut-être un tout petit peu précieux, la traduction en est très difficile, et c'est peut-être pas un théâtre à vocation universelle. Si je parle de Corneille, on me dit, c'est tout de même très archaïque, et finalement, on revient toujours à Molière. Alors ça n'est pas rien que de mettre en scène Molière à l'étranger et d'essayer de montrer ce qui est à peu près l'universelle perception initiale de Molière que l'on rencontre à l'étranger, le Molière farcesque, enfin Molière italien, Molière très tôt, Molière... ça n'est pas rien que de travailler à une approche de Molière beaucoup plus ouverte, beaucoup plus ambivalente, où entre la vision noire du poète et l'allégresse et l'invention de l'acteur, l'invention comique de l'acteur, se trouve une sorte d'équilibre étonnant. Mais j'ai cru longtemps que c'était un alibi suffisant. On va à l'étranger, on essaie de contribuer à la connaissance d'une œuvre pas forcément très familière à ce public, même lorsque le nom de l'auteur l'est. Et puis, on essaie d'enrichir un petit peu la vision que ce théâtre-là et son public peuvent avoir de cet auteur. Et en retour, on part à la découverte dans un contexte historique et social donné, qui quelquefois est extraordinairement prégnant. Et ça a été le cas de mes récents voyages en Argentine, ou à Saint-Pétersbourg, ou même en Italie. On essaie d'inscrire un tout petit peu cette approche d'une œuvre familière à l'intérieur d'une saisie forcément rapide, plus intuitive que documentée, d'une réalité, d'une actualité du pays où on va. Voilà. Et puis aussi d'une tradition théâtrale au milieu de laquelle on s'inscrit et qu'on découvre très vite. Je pense que de pareilles aventures se justifient encore. Elles se justifient pleinement pendant le temps du travail, où l'écoute réciproque, la curiosité réciproque entre les acteurs. Tout commence d'ailleurs avec le travail sur la traduction, que j'essaie toujours de susciter. C'est aussi une mise à jour éditoriale d'un texte du passé. Aussi longtemps qu'on est dans l'espace même du travail, et c'est souvent le cas au théâtre, tout va bien. Lorsque l'heure de la représentation est venue, il peut arriver que chacun retrouve ses billes, enfin.
Alors nous nous retrouvons demain, Jacques Lassalle, pour cet état des lieux de votre pratique et de votre réflexion du moment sur le théâtre. Demain, nous ferons nos bagages, nous irons à Buenos Aires et à Varsovie. À voix nue, Jacques Lassalle, Alain Weinstein.
Pensez-vous que... À Avignon, pour les acteurs, les premières ne sont jamais des premières comme les autres. Parce qu'en plus du trac, inhérent à l'acte de jouer pour la première fois en public, il y a le risque du Mistral. Et cette année, il souffla si fort jusqu'aux ultimes répétitions qu'il emporta non seulement les voix, mais les accessoires du spectacle.
C'est très beau que, même dans une scène de proximité, une scène amoureuse comme celle d'Elvire et de Don Juan, il y ait le Mistral entre eux, et tout d'un coup, d'avoir à passer par-dessus lui, à se battre avec lui, c'est une expérience d'incarnation très belle pour un acteur.
Madame,
le vent qui était là hier nous empêchait de bouger. Avec les manteaux que nous avons, souvent on est poussé, on peut tomber dans l'eau, dans le feu. Mais ça va s'arranger, ça c'est pas grave.
Ce matin, le vent commençait à tomber. Molière devrait être entendu dans sa moindre virgule par les 2500 spectateurs de la cour.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2004 entre Alain Weinstein et Jacques Lassalle qui vient de nous quitter. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, Ghislaine David, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.